22h, tout de suite, le journal.
Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. Donald Trump a nommé un nouveau ministre du Travail après le renoncement d'Andrew Puzder hier. Un remplacement rapide annoncé en conférence de presse tout à l'heure. Conférence où le président américain a en fait attaqué frontalement les médias. Les précisions de Frédéric Carbone. François Fillon n'en a pas terminé avec la justice. Le parquet national financier a annoncé qu'il poursuivait ses investigations sur les emplois présumés fictifs de sa femme. Pas de classement sans suite. L'annonce a été difficile à encaisser pour les soutiens proches du candidat de la droite. Les militants verts ont voté pour chercher les convergences de Yannick Jadot avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Cela signifie-t-il un ralliement avec le Parti Socialiste déjà amorcé par le candidat des Verts? Nous poserons la question à notre invité Daniel Bois, spécialiste de l'écologie politique. Donald Trump ne se laissera pas faire et a montré aujourd'hui qu'il réagissait à chaque coup dur. Il a promis d'abord de punir les auteurs des fuites dans la presse après les révélations sur des contacts répétés de son équipe de campagne et le renseignement russe l'année dernière. Information qu'il a démentie. Autre front, celui sur le décret anti-immigration. Il a annoncé qu'il renonçait à son appel en justice, expliquant qu'il reverrait sa copie en présentant un nouveau décret. Enfin, il a annoncé la nomination d'un nouveau secrétaire d'État au travail après le renoncement hier d'Andrew Puzder. Il s'agit d'Alexander Acosta. Frédéric Carbone, il l'a annoncé lors d'une conférence de presse tout à l'heure, mais ce n'était pas forcément le sujet principal.
Cette conférence de presse sonne comme une convocation, décidée dans l'urgence, annoncée une heure avant, officiellement pour présenter le nouveau secrétaire au travail. Un prétexte en fait pour une attaque en règle contre les médias.
The press has become...
La presse est devenue tellement malhonnête. Cela rend un très mauvais service aux Américains parce que la presse est hors de contrôle. Le niveau de malhonnêteté n'a aucune limite. Et il en est ainsi pendant plus d'une heure. La presse punching ball pour s'adresser directement au peuple. Donald Trump est presque comme sur un ring. On retient à peine les quelques informations qu'il donne sur le nouveau décret migratoire, finalement annoncé la semaine prochaine, ou sur le démenti formel de tout contact avec la Russie pendant la campagne électorale. L'essentiel, c'est bien ce jeu avec ses médias qu'il lit et regarde en permanence. Il y a de l'agressivité, il y a aussi comme un besoin d'affection.
The tone is such hatred. I'm really not a bad person, by the way.
Le ton est tellement haineux et je ne suis pas une mauvaise personne. Cette conférence de presse est avant tout l'expression d'une frustration, comme si Donald Trump se rendait compte qu'il était plus difficile qu'il le pensait d'être président et qu'il voulait en revenir à ce qu'il a fait gagner, une campagne seul contre tous, y compris dans un salon de la Maison-Blanche.
Ça c'est donc pour la politique intérieure américaine. À l'extérieur, les ministres de Trump tentent de rassurer sur la politique étrangère de leur président. James Mattis, le secrétaire à la Défense, est au siège de l'OTAN. Il a indiqué qu'il n'était pas question d'envisager pour le moment une coopération militaire avec Moscou en Syrie. Le secrétaire d'État Rex Tillerson est lui à Bonn pour le sommet du G20 des chefs de la diplomatie. Il a rencontré ce soir pour la première fois son homologue français Jean-Marc Ayrault. Mais Rex Tillerson n'a pas vraiment réussi à dissiper la confusion qui règne, Hervé Toutain, sur la nouvelle politique étrangère américaine.
Rex Tillerson, mine concentrée, visiblement peu à l'aise dans son tout nouveau costume de chef de la diplomatie américaine. La peur de trop ou de mal dire sans doute. Entouré d'une équipe en rodage, 5 sur 8 de ses conseillers font leurs premières armes ici à Bonn. Le secrétaire d'État écoute sans trop se dévoiler. Rex Tillerson n'aime pas s'exprimer et encore moins répondre aux questions des journalistes. Le flou et l'incertitude qui enveloppent la politique étrangère de l'administration Trump demeurent et les membres du G20 en sont réduits pour le moment à lire entre les silences, ce qui n'empêche pas les alliés des États-Unis de rappeler leur position. Ainsi, dans le conflit israélo-palestinien, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a fait comprendre à son homologue américain que pour la France, il n'y avait pas d'autre option que la perspective de deux États, n'en déplaise au président Donald Trump.
L'autre option qui a été évoquée, et que Tillerson a d'ailleurs lui-même évoquée, n'est pas réaliste, ne serait pas juste, ne serait pas équitable. Sur le dossier israélo-palestinien, ça reste quand même très confus et préoccupant.
Même confusion sur les relations américano-russes. Le Kremlin s'impatiente, mais Rex Tillerson tergiverse et évoque sans s'engager la nécessité pour Moscou de respecter les accords de Minsk sur l'Ukraine. La question des sanctions sera, elle, discutée plus tard.
Hervé Toutain, à Bonne pour France Culture. Un attentat à la voiture piégée à Bagdad a fait au moins 52 morts aujourd'hui. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'année dans la capitale irakienne. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Malgré ses revers à Mossoul depuis mi-octobre, mais aussi en Syrie, les djihadistes continuent de frapper régulièrement en Irak. Le groupe État islamique qui a également revendiqué un autre attentat au Pakistan, cette fois dans un sanctuaire soufi de Sewan, dans le sud du pays. 70 personnes sont mortes. La pression judiciaire s'accentue un peu plus sur les épaules de François Fillon. Aujourd'hui, le parquet financier a chargé de l'enquête sur les emplois fictifs présumés de sa femme a indiqué qu'en l'état, un classement sans suite était écarté. Il n'y a rien de nouveau, a commenté le candidat de la droite. Il critique un acte de communication qui nourrit, je cite, le feuilleton médiatique. Il ne change pas sa ligne de conduite. Il entend aller jusqu'au bout pour s'en remettre au seul jugement du suffrage universel. Et sa garde rapprochée est positive, du moins officiellement. Yannick Falt.
Ce n'est pas une surprise et il n'y a ni information judiciaire ni citation directe, autrement dit procès rapide. Les fillonistes voient le verre à moitié plein, mais il y a aussi le verre à moitié vide. Le candidat n'est pas débarrassé de cette affaire et ce sera toujours le sparadrap de sa campagne. Car si la justice respecte une trêve comme souvent pendant la présidentielle, il est possible qu'aucune décision ne soit désormais prise avant l'élection et qu'un éventuel classement sans suite ou un procès soit renvoyé au calende grec. François Fillon risque donc de faire toute la campagne avec ce poison du doute. On ne va pas se voiler la face, ce n'est pas facile. On a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, admet l'un de ses soutiens, pour qui le sort du candidat n'est plus uniquement entre les mains de la justice, mais aussi des sondages. On verra ce qu'il donne dans 8-10 jours, souffle cet élu, alors que les récentes enquêtes placent systématiquement François Fillon en troisième position, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Voilà pour la droite, François Fillon encore englué dans les affaires. À gauche, un ralliement se dessine entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Les militants et sympathisants verts ont choisi. Ils ont voté oui pour l'ouverture des discussions avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon à 89%. 17 000 militants et sympathisants verts étaient appelés à voter. Un peu plus de 10 000 ont effectivement donné leur avis. Daniel Bois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'écologie politique. Les militants ont donc ouvert la porte à une alliance de Yannick Jadot avec Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, mais on s'oriente plutôt vers un ralliement avec le candidat socialiste.
Oui, sûrement, parce que avec Mélenchon, c'est plus difficile, vu le côté un petit peu autoritaire de Mélenchon pour dire les choses rapidement, alors qu'avec Hamon, ça semble bien engagé, puisque quand on regarde de près son programme, au fond, il est assez proche de celui des Verts.
Un vote à 89,70% ouais. Pour ces discussions, ça veut dire quoi ?
Si on met ça un peu en perspective, c'est intéressant parce qu'il y a 2 mois, il y avait un congrès des Verts où toutes les motions étaient absolument unanimes pour dire qu'il n'y aura pas d'accord avec le Parti Socialiste dans un avenir prévisible. Et ils se préparaient à une espèce de traversée du désert sans alliance avec qui que ce soit, etc. Bon, alors les choses ont changé, mais c'est quand même un changement assez radical. Hein. Tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème avec le Parti Socialiste. Donc au fond, le Parti Socialiste change de majorité et du coup, l'accord devient possible. Bon, faut juste pour mettre un petit peu en perspective, c'est assez étonnant. Maintenant, c'est vrai que ça arrange un peu tout le monde. En tout cas, ça arrange les Verts et à mon avis, ça arrange la direction et Yannick Jadot parce que ils étaient dans une situation difficile. Vous savez, l'argument des Verts pour participer à l'élection présidentielle où ils ont on sait très bien, pas des bons résultats, hein, c'est 1-3%. L'argument principal, c'était de dire, s'il n'y a pas de candidat écolo dans une présidentielle, on ne parlera pas d'écologie politique. Oui, d'accord, mais cette fois-ci, l'argument y tombait. Parce que, effectivement, Mélenchon en parlait déjà pas mal, et Hamon, on en parlait beaucoup. Et puis, il y avait quand même beaucoup de difficultés pour Jadot et pour l'appareil des Verts, c'est que les signatures, ils avaient un petit peu du mal à les avoir. Et puis, une candidature, ça coûte cher, et on sait très
voilà,
bien
que... Voilà, le financement de la campagne était compliqué aussi, oui.
Bah oui, c'était compliqué, et puis on sait très bien que ça aurait abouti, quoi. C'est pas faire insulte à Jadot que dire vraisemblablement, un peu comme d'habitude, à 1-2-3%, avec à côté un Hamon qui, avec un programme du même genre, ferait, on sait pas, 14-15 pour l'instant, peut-être plus dans quelques semaines, voilà. Donc c'était quand même une situation extrêmement difficile. Donc s'ils peuvent sortir de cette situation en ayant cet accord, évidemment plutôt avec Hamon qu'avec Mélenchon, ça les tire d'une difficulté qu'ils avaient.
Quelle est la marge de manœuvre de Yannick Jadot pour peser sur le programme de Benoît Hamon ?
Elle n'est pas considérable, hein, parce que si je me souviens bien, il y a 3 choses qui n'étaient pas régler. Une qui est assez importante, qui est le problème d'adopter la représentation proportionnelle pour élire l'ensemble des députés, et non pas, comme le souhaite Hamon, une partie des députés, donc une dose ou la totalité. Bon, ça, c'est pas évident. L'arrêt des centrales nucléaires, c'est pas complètement clair, mais à mon avis, ils peuvent trouver un arrangement, parce que, comme c'est dans le futur, hein, on peut toujours promettre qu'en 2025, on aura fait ceci, on aura fait cela. Donc là, on peut trouver un arrangement, parce que, comme ça se situe à 10, 20 ou 30 ans d'ici, c'est pas très difficile. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'ils sont prêts à dire tous les deux, plus jamais on ne construira un réacteur nucléaire en France. Ce qui est un petit peu autre chose que de dire, dans 25 ans, 30 ans, on va arrêter, ce qui est toujours pas tout à fait clair. Bon. Et puis le troisième point, c'était sur l'Europe, mais là c'est très très vague, hein. C'est d'arriver à une position commune sur ce qu'on devrait faire à propos de l'Europe. Les Verts étant plus, ayant une fibre européenne plus profonde, encore plus forte encore que le PS. Donc là, je ne sais pas quel genre d'accord ils peuvent trouver, mais je crois que la marge de négociation de Jadot, elle n'est pas énorme, parce que il y a une poussée d'abord des adhérents pour cet accord, donc ça serait difficile de revenir en arrière. Voilà, ils sont un tout petit peu coincés quand même dans cette affaire. Si les Verts, ils ont le même programme que le PS, et que le PS a le même programme que les Verts en matière d'écologie, à quoi ils servent les Verts?
D'autant plus, si Yannick Jadot en plus ne participe pas à l'élection, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps pour les écolos de pas avoir de candidat à l'élection présidentielle.
Ça n'est jamais arrivé. Depuis 1974, il y avait un candidat. Avant que les Verts existent, hein, René Dumont, 74, il y avait déjà un candidat. Donc avant la naissance des Verts. Et ensuite, à chaque élection présidentielle, il y a eu un candidat à la présidentielle. Et à toutes les élections, ils ont été présents. Donc leur désir d'aller dans l'arène électorale est toujours très fort, même pour cette élection qui est la pire pour elle. Parce qu'au fond, le raisonnement, c'était de dire « Oui, mais si on n'y va pas, on ne parlera pas d'écologie. » Bon, très bien, on parle d'écologie. Et puis arrive ce à quoi on pouvait s'attendre quand même depuis un certain nombre d'années, savoir qu'il n'y a pas de raison que les écologistes, les Verts, gardent le monopole de l'écologie politique. Ce qui était plutôt étonnant, c'était pourquoi le PS n'essayait pas de prendre ça en charge, plus ou moins. Bon, il y avait des courants dans le PS, il y a du pour et du contre nucléaire à l'intérieur même du PS. Mais il se trouve que ceux qui ont gagné pour l'instant la majorité étaient les plus proches des conceptions des Verts. Donc voilà, ça résout le problème, encore une fois, ça le résout pour l'immédiat. Jadot,
Si Jadot donc se rallie à Hamon pour les législatives, est-ce qu'il pourrait négocier des circonscriptions, sauver un peu
les
meubles?
C'est une autre question. C'est que les circonscriptions, généralement, ça se négocie très tôt. Et la liste des investitures, elle est déjà donnée. Le PS a publié les investitures. Je ne sais pas s'il y en a qui sont réservées, mais là, c'est un peu plus délicat, parce que généralement, il y a ce qui s'était passé notamment en 2012, il y avait un accord qui était cousu de près et qui était à la fois un accord programmatique et électoral. Mais c'est compliqué de faire un accord électoral, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un assez grand nombre de circonscriptions, on fait un accord avec le PS en disant, ben voilà, il n'y aura pas de candidat PS, il y aura un candidat vert qui représentera la gauche. Et dans ces conditions-là, ben c'est ce qu'on a observé en 2012, et puis c'était la même chose dans la gauche plurielle. Autrefois, avec Dominique Voynet, bah effectivement, le candidat vert, la plupart du temps, il fait un score tout à fait honorable par rapport à ce qu'aurait fait un membre du Parti Socialiste à la même place, et du coup, ça donne des élus. Et puis là, c'était une grande réussite, puisqu'on arrivait, ils sont arrivés à avoir un groupe parlementaire. Ça avait été négocié bien avant.
Donc là, ça risque, d'être compliqué pour Europe Écologie Les Verts.
Il faut aller dire à quelqu'un socialiste, écoute, finalement, c'est pas toi qui vas représenter le PS, finalement, on met un vert à ta place. Les gens de la base du PS, elle n'a pas forcément les Verts toujours en très grande estime. Oui. Donc ça va être quand même compliqué.
Merci Daniel Bois d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'écologie politique. Un traitement du cancer du sein mis en cause après plusieurs décès. L'Agence nationale de sécurité du médicament a ouvert une enquête sur les médicaments génériques Taxotere contenant du docetaxel. 5 patientes sont mortes après avoir reçu le traitement. Ce qui a interpellé l'Agence du médicament, Valentine Letest, ce sont les profils de ces 5 femmes.
Ces femmes âgées de 46 à 73 ans avaient plutôt un bon pronostic d'après la NSM. Pourtant, à la prise de docetaxel, elles ont toutes succombé à une entérocolite, une inflammation de l'intestin grêle et du côlon. Un risque rare et très grave, mais connu de ce traitement depuis 20 ans, le cancérologue Marc Spellman.
J'étais dans les premiers à travailler sur le Taxotere. Très tôt, on a vu des toxicités spécifiques sur la sphère digestive. Mais c'est certainement un des médicaments qui nous a fait gagner beaucoup en termes de réduction du risque de rechute des cancers du sein, et aussi de réduction du risque de mortalité. Donc c'est un grand médicament.
Et d'ailleurs, d'après les premières analyses de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la qualité des lots injectés est conforme. Xavier Mérobian, directeur général du laboratoire Accor Healthcare France, qui produit le générique mis en cause.
Les analyses qui ont été faites par la NSM sur les lots qui étaient incriminés cabinet ont indiqué que le produit était complètement conforme aux spécifications qui avaient été autorisées pour le produit Accor. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu de restrictions sur les lots incriminés suite à ces analyses.
Pas de surdosage non plus dans les perfusions des victimes. Alors avant de prendre une décision sur la vente de ce générique du Taxotere, l'ANSM doit aussi prendre en compte dans son enquête le rapport bénéfice-risque du médicament, c'est-à-dire s'il fait plus de bien que de mal aux patients.
Le temps pour demain, de la douceur et du soleil, malgré quelques nuages sur la moitié nord et l'est, et quelques gouttes sur le sud-est. Il fera entre 8 et 12 degrés sur le quart nord-est, 10 à 14 sur le nord-ouest et 14 à 18 degrés dans le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue et à la technique Anthony Thomasson.